c'est par crac, boum. Donc, on change de langage.
Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cet exposé. Et on va justement passer à la question de la langue. Parce que j'avais demandé à Alain Corbellari de réfléchir à cette question, qui est une question importante. Représenter le Moyen-Âge, c'est une chose, les châteaux et décors, etc., c'est une chose, qui demande une documentation importante et qui, à la limite, est théoriquement possible. On pourrait, avec une grosse documentation, savoir à quoi ressemblait un château, une motte castrale ou un chaudron. En revanche, une autre question est celle du langage utilisé. Comment faire parler des personnages dans une BD médiévalisante. Donc Alain Corbellari n'ayant malheureusement pas pu venir, c'est moi qui vais lire sa communication. La question du langage dans les bandes dessinées qui se déroule dans les époques reculées de l'histoire est à la fois complexe et frustrante. Complexe parce qu'elle joue avec les attentes d'un public qui aimerait qu'à l'exotisme du décor corresponde un certain dépaysement linguistique, frustrante car, dans la plupart des cas, même les rares tentatives proposées par les auteurs s'avèrent souvent timides et inabouties. Nous nous en tiendrons ici au cas du français et de ses antécédents historiques, doublement exemplaires au demeurant, puisqu'il faut rappeler d'une part que la langue commune des croisés ne s'appelait pas la lingua franca pour rien, et que, d'autre part, les autres cultures européennes, ne possédant pas de tradition de bande dessinée comparable à la tradition française, le cas du français y est presque monopolistique. Une enquête parallèle sur la BD américaine mériterait sans doute d'être faite, mais elle serait sans doute d'une toute autre nature, car les langues forgées par Tolkien y entrent en forte concurrence avec l'anglais médiéval. Quant aux bandes dessinées situées dans l'Antiquité, leur chronotype est trop éloigné dans le temps pour que la restitution des langues originales, dans quelques traductions d'albums d'Astérix et d'Alix, soit autre chose qu'un très marginal amusement d'érudits, de toute façon extrêmement scolaire, car le latin n'est au fond pas un idiome astérixien beaucoup plus vraisemblable que le français moderne, qui ne restituera jamais le gaulois parlé par les contemporains de Vercingétorix. A contrario, le français de Jacques Martin dans Alix est d'une correction classique qui tend par moments au pastiche, inconscient, du pathos chateaubriandesque ou yourcenarien. Le désuet des tournures ne franchit pas le siècle de Voltaire, et le mépris dans lequel est tenue toute la série durant la grossièreté primitive des Gaulois, à laquelle s'oppose la bienfaisance civilisatrice de la culture gréco-romaine, en dit assez long sur l'axiologie hyper-classisante de Jacques Martin. L'ancien français, pour revenir à lui, possède de fait une double valeur de fantasme, en tout point opposée aux valeurs du classicisme. Il se pose en idiome originaire, ayant été au XIIe et XIIIe siècle, comme je l'ai rappelé, une langue littéraire internationale, presque comparable à ce qu'est l'anglais aujourd'hui, et il peut apparaître en même temps suffisamment proche du français du XXIe siècle pour donner l'illusion d'une compréhension possible. C'est cependant justement là que commencent les difficultés, et sans trop anticiper les résultats de ma petite enquête, je signalerai d'emblée que la solution érudite que je viens d'évoquer à propos du latin et du grec ancien n'a jamais été tentée. Il n'existe pas de bande dessinée dont les dialogues soient intégralement en français médiéval. Certes, pour être une langue morte au même titre que le latin et le grec ancien, l'ancien français ne connaît pas de codification grammaticale aussi radicale que celle de ces deux langues, et l'effort de reconstitution pourrait en l'occurrence apparaître disproportionné en regard du résultat escompté. Mais est-ce bien là une raison suffisante à cette absence ? De fait, même la solution que l'on pourrait appeler « semi-savante » choisie par Romer dans son film « Perceval le Gallois » n'a pas trouvé d'équivalent en bande dessinée. Un élément important est à prendre en compte, c'est que la bande dessinée est un média que l'on n'a que très tardivement pris au sérieux. Avant les années 1960, l'idée d'évoquer l'histoire dans des fictions dessinées bien documentées ne tentait guère les auteurs, sinon d'une manière extrêmement didactique, qui excluait par avance tout bricolage linguistique. Or, à cette date, l'adaptation littéraire des textes médiévaux avait déjà depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse, et c'est pourquoi il faut rapidement expliquer les différentes options linguistiques qui s'offrent à un auteur qui ferait une BD médiévalisante. La seconde moitié du XVIIIe siècle voit naître une mode de l'adaptation fleurie qui prendra au début du XIXe siècle le nom de style troubadour. Nous la jugeons aujourd'hui d'un kitsch à toute épreuve, avec ses jantes dames, ses beaux damoiseaux et autres douces amies, mais il n'a pas totalement disparu, comme le prouve la familiarité amusée qu'il rencontre encore dans les esprits à sa simple évocation. Les beaux damoiseaux et les jantes dames, ça continue à nous parler à nous aujourd'hui. Dès le second tiers du XIXe siècle, des réactions se font sentir sous l'influence du développement des sciences philologiques, de plus en plus précises. L'exigence de fidélité amène ainsi deux tendances complètement contraires. Soit une affectation d'archaïsme à la limite du compréhensible, d'une part, soit une stylisation dans une langue classique, sans archaïsme, trop marqué, mais suffisamment soutenu pour instaurer un léger dépaysement. Illustré en 1900 par l'immense succès du roman de Tristan Iseut de Joseph Bélier, cette seconde solution s'imposera très largement dans les trois premiers quarts du XXe siècle, à peine concurrencée de loin en loin par des traductions plus baroques, si l'on ose dire, aux archaïsmes nombreux et parfois sauvages, dont l'exemple le plus caractéristique reste en 1965 la traduction de Dante par André Pézard. Celle-ci, truffée de mots inventés, crée une langue nouvelle, souvent jugée irritante, parce que ce n'est pas plus de l'ancien français que du français moderne, et elle se rapporte avec la première des deux options que je distinguais. Ce n'est que dans les années 1970, avec l'apparition d'éditions de poche bilingues, dans un contexte de très fort engouement pour le monde médiéval, que de nombreux traducteurs commencent à user plus franchement de la langue moderne, au risque de transformer les brés de Tristan en pantalons et les hauberts carolingiens en simples casques. Nous nous retrouvons donc avec trois options, soit un usage intensif de l'archaïsme, soit un usage modéré de l'archaïsme, soit troisième solution, une franche modernisation. Dans l'écrasante majorité des cas, c'est la troisième solution, la franche modernisation du langage médiéval, qui s'impose dans la bande dessinée contemporaine. En effet, les traductions et les adaptations littéraires de la matière médiévale n'ont pas seulement pour elles l'ancienneté de leur tradition, elles sont aussi généralement le fait d'érudits. Dans le monde de la bande dessinée, les motivations des auteurs et des dessinateurs pour la représentation du passé sont bien davantage de l'ordre du dépaysement et du ressourcement dans un monde d'aventure qui fait rêver que dans celui de l'érudition. Les érudits locaux font rarement leurs ouvrages en bande dessinée. Il en résulte que la restitution d'un langage d'époque, considéré comme un obstacle à la lisibilité du récit, est souvent le cadet du souci des auteurs qui font de la BD médiévalisante. La plupart des séries usent donc sans distance de la langue la plus moderne, voire de la langue la plus relâchée, ce qui passe plutôt bien dans les séries comiques, mais qui provoque parfois un malaise gêné dans certaines séries qui se veulent réalistes, où le caractère presque argotique du langage rend d'autant plus criante certains nombres d'absurdités psychologiques et comportementales qui sont déjà, en temps normal, le lot quotidien des romans historiques. Au demeurant, les authentiques spécialistes sont si minoritaires parmi les lecteurs de bandes dessinées médiévalisantes que l'on comprend bien les éditeurs de ne pas cibler leurs produits en fonction de ce public fantomatique. Ce que l'on pourrait appeler le degré zéro de la médiévalité linguistique constitue dans, donc l'immense majorité des occurrences observées. On pourrait même parler non pas d'un degré zéro, mais d'un degré moins un, à propos des séries qui argotisent à outrance. Quand cela est parfaitement assumé pour créer un effet comique, cela donne par exemple les BD de la série Kaamelott. Kaamelott, donc la série d'Alexandre Astier, qu'Alexandre Astier a lui-même adapté en écrivant lui-même les dialogues en bande dessinée. On a tous en tête les répliques mémorables de Kaamelott, qui créent du coup un effet comique avec un décalage énorme. Mais il y a aussi des bandes dessinées où le relâchement moderne du langage n'a rien d'un effet comique, en tout cas pas volontaire, et nous donne l'impression d'être dans une imitation du western ou du film noir. C'est par exemple le cas de L'Étoile polaire, de Dufaux et de Laby, série historique qui se passe au XIIe siècle et qui met en scène Aliénor d'Aquitaine, et où on lit des phrases du genre « Avec les imbéciles, il y a toujours une chance », « Lâche-moi, sale type, c'est un salaud », et les personnages parlent volontairement en disant « mouais », M-O-U-A-I-S, où ont assez de teinture de psychologie de comptoir pour s'écrier « cette ambiance me déprime ». Les exemples demeurants seraient innombrables. Passons aux bandes dessinées qui exhibent une connaissance minimale des usages linguistiques médiévaux. Dans l'ensemble, trait degré moins 1 se place une bande dessinée, la Géane au pied du mur de Fmur. Alors, une citation, c'est pour faire marrer le petit, il y a encore un Sinoc qui se fait sacré roi de France. Fmur joue parodiquement de quelques éléments discordants pour faire mine d'échapper par instant à l'argot très décomplexé dont usent généralement ses personnages. Le titre, déjà, avec son Géane, en trois syllabes, fait partie de ces effets très circonscrits. Le titre du premier chapitre inclut ainsi le syntagme « cruelle absence » avec un Y dans « cruel » qui ne correspond à strictement rien dans la langue du XVe siècle, mais entretient pour le lecteur l'illusion qu'on a là une langue du XVe siècle. Plus loin, Géane, page 53, commence une phrase en disant « si j'ai bonne souvenance ». Le lecteur qui prendrait cette expression pour un trait typiquement médiéval tomberait dans le piège du troubadourisme. Elle évoque en fait directement les célèbres vers « Combien j'ai douce souvenance du joli lieu de ma naissance » qui sont non pas du XVe siècle, mais qui sont de Chateaubriand. J'ai plus haut parlé de Jacques Martin. On sait que Jacques Martin a scénarisé les aventures médiévales de Gênes pour Players et que le Vasco de Chaillet se réclame directement de la manière de Jacques Martin. Un rapide regard sur ces séries montre qu'elles ont parfaitement intégré ce que j'appelais la langue traductrice de Joseph Bédier, c'est-à-dire une langue extrêmement classique, où ne se décèle aucun excès de modernisme, et où quelques tournures discrètement désuètes donnent à peu de frais une teinture archaïque qu'il serait exagéré de dire vraiment médiévale. Alors je prends quelques exemples tirés du premier volume de Gênes, que vous avez donc, je ne vais pas les lire, vous les avez à l'écran. Toutes ces tournures montrent que on a des choses qui reviennent de manière récurrente. Par exemple, le C plus substantif sans article. C'est plaisir de te revoir, c'est folie que d'engager pareille entreprise, etc. On a là une construction extrêmement classique que Martin prend pour faire médiéval sans être réellement médiéval. Une charmante mais peu connue histoire en trois volumes chez Glénat qui s'appelle « La dernière fée du pays d'Arvor » d'Arnoux et Michaud va nous permettre de faire un pas de plus dans la recherche d'un parler médiéval en bande dessinée. Dès la première page, lorsqu'un voleur demande à son complice « Compain, tu le vois ?» Compain écrit C-O-M-P-A-I-N, « Tu le vois ?» L'usage du mot « compain » associé à l'apocope de l'article nous entraîne vers une stylisation de la langue familière qui échappe à la vulgarité d'un argot trop moderne. Le même personnage, avisant une jeune fille, s'écrit bientôt « c'est, vous l'avez au tableau, sang noir, une jouvencelle, et etc., etc., etc. Avec un C, trois petits points à la fin. Il n'est pas jusqu'au dernier mot et l'idée qui ne fasse deviner plutôt que Q le mot con, si typique de la langue des fabliaux. Encore une fois, cependant, la tentative est modeste, car le deuxième voleur poursuit le dialogue en disant dans un français très châtié, moderne, très châtié, « Mon ami est peu gracié et ne sait pas parler aux dames. » Il n'empêche que, l'espace d'un instant, on a, je dirais enfin, eu l'impression de voir parler un homme venu de la nuit du Moyen-Âge. L'effet n'est toutefois pas vraiment transformé, et c'est à peine si on trouve encore dans la suite du premier tome des phrases comme celle-ci, dans ces temps-là, qui entre dans une auberge, et buveur paillard, ou bachelier sans canaillant, donc c'est la deuxième phrase qui est au tableau. Ici, l'auteur prend le risque d'oser un terme réellement médiéval, le terme bachelier, au risque de provoquer la perplexité du lecteur néophyte qui ne comprend pas ce que veut vraiment dire le mot bachelier. Le peu qu'osent ici Arnoux et Michaud ne me semble pourtant avoir été, à ma connaissance, dépassé que par deux auteurs, Hermann, d'une part, Jean-Charles Crène, et bien sûr, et ça c'est l'exemple qu'on attend, Bourgeon, mais ça, on y reviendra à la fin de cet exposé. Hermann, dans les tours de Bois-Maury, ne fait au fond que généraliser les tournures sporadiquement utilisées par Martin et Chaillet. Dans un texte globalement très classique, il introduit des plages d'archaïsme qui, sans se généraliser, tendent d'ailleurs à devenir de plus en plus nombreux au fur et à mesure que la série avance. On citera ainsi cet exemple que vous avez à l'écran. Les trois archaïsmes, d'autant plus visibles qu'ils sont essentiellement graphiques, ghosté, damage et parence, en viennent à attirer dans leur sillage des mots comme aversion et hardi, qui en acquièrent une sorte de patine ancienne. Mais on ne dépasse guère une problématique essentiellement lexicale. Cette pratique assez ciblée ne nous immerge pas moins, avec un certain bonheur, dans l'atmosphère violente et quelque peu primitive que Hermann essaye de rendre dans sa bande dessinée. Le cas de Crène, avec cette bande dessinée qui s'appelle Le Ruistre, le cas de Crène est curieux. Le dessinateur des Aigles décapités a en effet publié en 2001 et en 2004 deux volumes d'une nouvelle série qui s'arrêtait là, faute d'avoir rencontré le succès. Lui donnant l'étrange nom de Ruistre, l'auteur expliquait laborieusement qu'il avait voulu créer, je dis bien créer, un mot d'ancien français, en mélangeant deux mots, le mot rustre et le mot cuistre, pour caractériser le personnage un peu hors norme dont il avait fait son héros. Il est vrai qu'il donne, en page 9 du premier volume, une note expliquant que ruistre signifierait « vaillant ». Or, la langue médiévale connaît bien le mot « ruist », qui veut dire « rude », et « rustre », mais en aucun cas le mot « ruistre ». De fait, il est malheureusement à craindre que le mot ait été inspiré à l'auteur, Crène, par les aventures d'Achille Talon. Ce dernier applique volontiers le qualificatif de « cuistre » à son voisin le funeste, ce qui, pour un lecteur pressé, pourrait paraître signifier « personnage insupportable », voire « espèce de crétin ». Ce contresens écorne la crédibilité de la bande dessinée Ruistre de Crène, dont les efforts d'invention langagière s'avèrent, dans les deux volumes de sa série, avortés, un peu chaotiques. Voici à l'écran le dialogue du début du premier tome entre le héros et un jeune garçon. Donc, le dialogue, vous l'avez à l'écran. Il serait sans doute injuste de dire que la dernière réplique, par laquelle le héros rabroue son trop brave écuyer, anéantit les efforts dont font preuve les autres phrases, mais le fait est qu'elle détonne. On a envie de dire « chassé de naturel, il revient au galop ». Cela dit, la tentative de Crène reste méritoire. On a à la fois des graphies médiévales, voix yageur avec un i, jeune, chassier, chevreuil, pêchier, à la fois des termes d'ancien français, méni, char pour désigner la viande, mais pourquoi un accent circonflexe sur char ? Des approximations aussi, le verbe giboyer et l'adjectif corbin utilisé comme substantif, et surtout vestre, qui revient sans arrêt est une hypercorrection latinisante qui n'a jamais existé en ancien français, vostre venant du latin populaire, voster. Ce qui gêne davantage est que Crane ne peut s'empêcher de prêter à ses personnages des propos grossiers, et pour être sûr qu'on les comprenne, il se fait soudain moins regardant sur leur vraisemblance linguistique. Je me fous du Christ comme du paradis, moi Nignon, j'ai surtout espoir d'y gagner bon fief, et blanc et franc blason. Comme dans le cas de la dernière fée du pays d'Arvor, on peut à la limite considérer que l'apocope peut revêtir une valeur de parler fabliesque. Avec la deuxième phrase que vous avez à l'écran, on ne peut nier que dans l'ensemble, les trouvailles abondent et après tout, la cohérence est-elle si importante dans un tel récit ? On songe au film Les Visiteurs, en 1992, où le soi-disant ancien français, qui allait d'ailleurs s'amenuisant au cours du film, contribuait efficacement au dépaysement du spectateur. Mais il est vrai qu'on était là en pleine parodie, ce que le ruistre ne prétendait guère être. Enfin, arrivons-en à ce que, dans la salle, vous attendez probablement, qui est la bande dessinée la plus connue parlant du Moyen-Âge, qui sont les Compagnons du Crépuscule, dont j'aurais dû parler en toute logique en premier lieu. D'une part, parce que c'est une série bien plus ancienne, elle a été publiée entre 84 et 90. D'autre part, parce qu'elle a influencé toutes les séries qui ont suivi. Cependant, l'exceptionnelle réussite graphique et scénaristique de Bourgeon méritait de lui accorder la place ultime. La question n'en est pas moins de savoir si les trouvailles linguistiques dont on crédite cette série culte présentent le même degré d'achèvement. Au vrai, la position de Bourgeon a évolué. Dans le premier tome, Le Sortilège des Bois de Brume, il ne fait pas beaucoup d'efforts pour restituer la langue de l'ancien français. Ainsi, on voit l'Anicet dire de la Mariotte la phrase que vous avez au tableau. Et il faut en fait attendre le milieu du volume pour voir peu à peu arriver les termes anciens comme escoyer ou navré au sens de blessé. Le deuxième tome, par contre, Les yeux d'étain de la ville glauque, nous installe très vite dans un langage extrêmement archaïsant, et vous avez un dialogue au tableau. Si l'on y regarde de près, ce texte n'est pas non plus totalement sans défaut. On nous épargne cependant des graphies inutilement archaïsantes, l'ensemble sonne plus juste, et l'expression obscène, à la landite amère, est excellemment exploitée. La landie est un petit mot charmant qui désigne le clitoris. Mais on remarque que Cornegidouille est plus rabelaisien que médiéval, que franc n'est pas un synonyme de français, que dans les plus vieilles chansons de gestes, que la forme congaigne est introuvable, il faut sans doute le relier dans l'esprit de Bourgeon à congue nuire engendré, et que la forme audissant est une forme problématique du verbe ouïr. Le fait que l'infinitif puisse s'écrire « audire » n'implique pas la généralisation d'un tel participe présent. Enfin, pourquoi la première réplique du Seigneur est-elle ici si moderne ? Bourgeon a manqué une belle occasion de remplacer « ici » par le mot « séant ». Il n'en reste pas moins, mais le temps me manque pour en faire la démonstration détaillée, qu'il se dégage du texte de Bourgeon une poésie, y compris et surtout précisément dans l'insulte que le texte de Crane ne distillait guère. On peut juger de cela trois répliques plus loin, quand la Mariotte plaide sa cause devant le Seigneur et déclare la phrase suivante. Ici, le spécialiste n'a rien à redire. Pas plus qu'à la réponse du Seigneur, la petite est mignotte et son niais semble sincère, où l'on aurait tort de voir un terme précieux dans mignotte. C'est le film Les Visiteurs qui a gâté le terme mignotte. Malheureusement, ce deuxième tome des Compagnons du Crépuscule échappe pour sa plus grande partie au réalisme historique, pour s'engouffrer dans une fantasmagorie qu'il serait de mauvais goût de dire vaseuse, puisqu'elle a pour décor un marécage. Toujours est-il qu'en nous faisant quitter le terreau proprement médiéval pour une rêverie ésotérique au relent celtisant, elle abandonne du coup la parlure médiévale que Bourgeon commençait à maîtriser. Il y revient enfin dans le troisième et dernier tome, le dernier chant des Malaterres, à tous égards le meilleur de la série,
mais on y retrouve moins de morceaux de bravoure. Au terme d'une analyse attentive des procédés linguistiques de Bourgeon, Michel Thiébaut, qui a consacré plusieurs volumes d'analyse de l'œuvre de Bourgeon, propose une conclusion que je ne peux que partager. Donc je vais citer Michel Thiébaut. Selon une alchimie toute personnelle, François Bourgeon donne à ses phrases un rythme, des sonorités, une saveur qui évoque la langue des origines, tout en conservant une syntaxe qui, dans ses grandes lignes, est essentiellement celle du français moderne. Avec raison, il a su ne pas abuser de procédés qu'il maîtrisait pourtant bien. Il a su doser selon les moments de son récit. On constate notamment que sa langue se simplifie dans les moments tendus. Ma seule légère réserve porterait sur l'idée que Bourgeon maîtrisait bien ses procédés. Je le soupçonne d'avoir été plutôt conduit par l'instinct que par une totale immersion dans la philologie romane. Mais encore une fois, qu'importe. L'essentiel, comme dit Thiébaut, est cette saveur qu'on peut difficilement refuser à Bourgeon. Je conclurai ce petit parcours en soulignant une fois encore la rareté des tentatives originales d'adapter à leur contexte la langue des bandes dessinées médiévalisantes. Je ne prétends certes pas avoir été exhaustif, et certains exemples intéressants peuvent m'avoir échappé, mais il est flagrant que l'écrasante majorité des auteurs de bandes dessinées qui veulent faire de la bande dessinée médiévalisante veulent fuir l'archaïsme comme la peste. Un petit nombre, souvent de culture plus classique, et dont les représentants vont en se raréfiant, accueillent plus ou moins généreusement les expressions figées du style troubadour ou du classicisme bédiériste. C'est sans doute de ce point de vue que Hermann qui se montre le plus audacieux. Enfin, je n'ai trouvé que deux auteurs, Crahen et Bourgeon, pour tenter réellement de restituer une véritable verdeur linguistique médiévale à leur récit. Et le second me semble de loin l'emporter sur le premier cas. L'obscénité médiévale lui inspire des solutions idiomatiques, alors que Crahen a fâcheusement tendance, dans les moments délicats, à retomber dans les automatismes de la grossièreté moderne. Cela dit, on peut toujours rêver d'un auteur qui scénarisera ou qui traduira entièrement et rigoureusement une bande dessinée en ancien français. À la fin du XIXe siècle, Émile Littré avait réussi la gageure de traduire en ancien français l'intégralité de l'Enfer de la Divine Comédie de Dante. Pourquoi un tel pari serait-il impossible aujourd'hui en bande dessinée ? Je remercie Alain Corbellari pour son exposé et je serai absolument incapable de répondre à toute question. Il y a des linguistes dans la salle, si vous avez des questions, je pense qu'il y a des linguistes qui répondront mieux que moi. Oui ?
On utilise l'ancien français pour marquer le délire du personnage, en fait. Donc, plus il parle ancien français, et finalement, plus il délire. Et les autres personnages commentent en disant bah, ça, c'est de l'ancien normand, ça, par contre, c'est ceci, parce qu'il avait une tante là-bas, etc. Voilà. Donc, ça existe.
Et c'est compréhensible par un lecteur lambda ?
Je suis sûr que ce soit compréhensible ou pas, parce que, du point de vue littéraire, on n'a pas besoin de, finalement, du lire, juste de comprendre ce qu'il se dit. Donc, si on n'avait pas mis d'anciens français, on aurait des mots qui n'ont pas de. Je sais pas ce que c'est. Enfin, qui n'ont pas de. C'est dommage, je ne l'ai pas là, je ne peux pas passer. Mais, quitte à mettre des mots qui ne se suivent pas, autant mettre des mots qui se suivent, qui veulent dire quelque chose, et donc on n'a pas la clé. Voilà. Donc, surtout qu'effectivement, lorsqu'on a la clé, ben, on a un mot qui se crée, et qu'on a ce qu'il dit, on est mal.
D'accord.
Donc, si c'est possible.
Moi, Tristan, si tu veux bien, je vais revenir sur l'histoire de la partie argotique et traduction. Voilà. Je précise, je ne suis pas historien ni linguiste, je suis scénariste de bande dessinée. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la question, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Kaamelott, dans la série Kaamelott, surtout à la télévision, c'est l'aspect traduction. Pas seulement traduction littérale d'un mot, mais traduction d'une. D'une ambiance, d'une psychologie, de comportement, de choses comme ça. C'est là où ça devient compliqué quand on est scénariste pour trouver la meilleure manière de donner à ressentir ou à comprendre que les gens d'une époque, par rapport à les gens de l'autre époque, n'était peut-être pas si différent. C'est-à-dire qu'on a eu cet exotisme qu'on a bien marqué dans la bande dessinée pendant longtemps, parce que ça faisait partie de l'attrait pour ces histoires. Il y a un moment où on arrive un petit peu au bout de cet exotisme, et avec l'envie de se rappeler que quand même les humains, à travers toutes les époques, ils ont parfois plus de points communs que de différences. Et de fait, leur donner, de mettre dans leur bouche des mots d'aujourd'hui, mais aussi de l'argot d'aujourd'hui, pour, non pas pour les moments où il y a du discours réfléchi et pensé, mais plutôt dans les moments où il y a de la spontanéité, de la violence, de la réaction non réfléchie, d'utiliser des mots de l'argot d'aujourd'hui montre bien à quel point ce sont des gens qui avaient aussi des comportements équivalents aux autres. Et c'est là où toute la difficulté. Et c'est là aussi où toute la difficulté pour un scénariste, quand on travaille avec, quand on veut travailler avec des historiens, c'est qu'on a l'impression, et c'est pas forcément vrai, hein, on a l'impression qu'on va se confronter à des nécessités de fidélité historique par rapport à des nécessités de compréhension, non pas d'un mot ou d'une étymologie, mais la compréhension d'une ambiance.
Et dans tes dialogues, tu comptes mettre une partie d'archaïsme, de mettre quelques mots qui vont sonner médiéval ou pas du tout?
Non, justement, mais c'est pour ça que j'ai envie de travailler sur un projet médiéval, je travaille avec
un groupe,
voilà. Mais je n'ai pas encore complètement décidé, parce qu'on est au début du projet, je n'ai pas encore complètement décidé de la manière dont je vais m'y prendre, mais c'est un vrai problème.
Mais on voit bien qu'il y a, ce que tu disais là encore, il y a trois, soit tu fais vraiment archaïsant, soit tu fais vraiment moderne, soit tu as des solutions bâtardes, ou justement tu as essayé de trouver un entre-deux. Et
cet entre-deux a été beaucoup utilisé, cet entre-deux, et fait tout de suite, comme tu disais, troubadour. Ça fait un peu. Et puis on a tellement vu des mots inventés, des mots un peu sortis de nulle part dans la bande dessinée, que même si aujourd'hui on faisait l'effort de mettre des vrais mots, il n'y a que les historiens qui s'en rendraient compte. Pour le public, ça sonnerait aussi un peu kitsch et pas forcément.
Mais
ça serait aussi des faux mots sortis de nulle part.
Mais inversement, les faux mots que tu mets, il n'y a que une trentaine d'historiens qui vont s'en rendre compte. Le public ne verra pas la différence.
J'ajoute, je pense que tout dépend aussi du public, dans la mesure où, par exemple, dans le cadre d'une BD jeunesse, par exemple, utiliser des mots argotiques ou archaïsants, médiévalisants, ou qu'ils soient vrais ou pas, ça peut aboutir à un processus de distanciation du lecteur par rapport au héros, alors que justement, le but d'une œuvre, c'est aussi une identification entre le héros qu'on lit et entre le lecteur et celui qui vit l'action dans l'œuvre, et ça peut poser un problème si on décide d'utiliser genre des mots comme cornegidouille ou des mots assez qui vont obliger le jeune lecteur, par exemple, à soit demander à ses parents, soit chercher dans un dictionnaire, soit pas comprendre tout court. Ça peut aboutir à un problème d'identification, je pense, qui est quand même important dans la catégorie du héros en bande dessinée.
Yvan Pomo, quand il a fait de la BD pour enfants médiévalisante, justement, et évacue en partie tout le vocabulaire trop compliqué. Mais même cet après-midi, on va pas déflorer la question parce qu'on y reviendra cet après-midi. Cet après-midi, on a des exemples de BD destinés à un public bien plus adulte. Et la question se pose. La question se pose de.
Si je peux intervenir, je pense qu'effectivement, on va en parler cet après-midi. La question, elle est quand même de savoir ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que toutes les BD, la BD, c'est comme le roman, ça n'existe pas en soi. Il y a 10 000 sortes, et encore bien plus que la nomenclature de Bernard et Bémont. Donc la question, elle est effectivement de savoir si on est dans le cadre d'une création où on va chercher l'identification du lecteur au personnage, au héros, etc., là, bien sûr, ou si on est dans le cadre de la reconstitution. Qu'est-ce qu'on cherche à reconstituer? Et comment peut-on reconstituer le langage médiéval en français moderne? C'est impossible. Donc, de toute façon, là, il faut choisir une voie. Mais de toute façon, la voie de la reconstitution me semble totalement. Je suis très étonnée de la conclusion d'Alain Corbellari, je m'en aurais volontiers discuté avec lui, parce que je ne vois pas très bien ce qu'apporterait une bande dessinée dont les bulles seraient en ancien français, que personne ne pourrait lire, à l'exception de 10 spécialistes, 50 spécialistes, j'en sais rien. Même pas moi, puisque moi je suis spécialiste de haut Moyen-Âge, donc je n'étais pas d'ancien français, Le personnage, à moi, il parle en espèce de latin, alors je vais dire abattardi, c'est très mal, les philologues n'ont pas entendu, voilà, de latin qui est encore une langue vivante, qui, bon, bien sûr, je pourrais, on pourrait hein, l'écrire comme ça, mais c'est, quel est l'intérêt?
C'est du défi, quoi.
Oui, c'est ça, c'est,
bah, il y a un vrai intérêt, à savoir l'ancien français sans des images, vous mettez ça devant un public non averti, ça va rien donner. Mais je ne sais pas quels sont vos souvenirs de lecteurs de BD en bas âge. Moi, j'ai commencé à lire des BD en regardant les images. Et si une fois, en fait, qu'on s'est appris les images, on rajoute le texte, il n'est pas très compliqué. Il ne veut pas dire qu'on comprend tous les mots, mais il y a une vraie possibilité aussi de rapprocher l'ancien français d'un public non averti, de faire une sorte de vulgarisation de la langue ancienne aussi par le moyen de la BD. On peut y trouver un certain intérêt. Et je partage l'avis de Corbenari qui dit que ce serait vraiment intéressant de voir ce qu'on peut faire. Vraiment, deux petits textes par lequel on a mis l'ancien français, les Lèvres de Marie de France, ce serait génial en idée. On a vu des adaptations en film qui sont très réussies. Donc, je crois qu'il y a vraiment un défi à relever là-dessus. S'il y a des gens qui veulent bien le faire en scénario ou en dessin.
C'est vrai qu'en scénario, on envisage ce que vous disiez, on envisage l'ancien français, ou pas, enfin, ça dépend des époques. Comme on n'est pas historien, mais encore dans ce bain qui nous a été, imposé quand on était gamin à l'école, où on ressort de l'enseignement général avec l'image du Moyen-Âge comme étant une grande période où c'était la merde pour tout le monde, avec la guerre, la famine, avec des gens qui se battent avec des châteaux, ce qu'on voyait au début, quoi. C'est le fantasme qui n'ont plus rien d'historique et qui sont un peu compliqués, et on part avec ça. Donc forcément, on imagine les langues de cette époque-là comme ayant des sonorités ou des choses approchantes avec la langue d'aujourd'hui, mais qu'on serait incapable de comprendre. Donc on envisage comme une langue étrangère. Donc si je fais, c'est comme aujourd'hui quand je fais un scénario qui se passe aux États-Unis, qui se passe en Asie ou je ne sais pas où, mes personnages ils parlent français. Je fais une traduction parce que je ne peux pas transformer le langage français en intégrant des mots anglicisants pour dire que c'est anglais. Ça n'aurait aucun sens. Donc c'est là où on manque de connaissances en tant que scénariste, des langues, parce que je pense qu'il n'y a pas une langue qui a été parlée pendant tout le Moyen-Âge, on est bien d'accord, il y a plein de langues qui ont un dialecte, mais selon les régions, selon les périodes, selon le machin, donc ça veut dire qu'il faut trouver des spécialistes d'une certaine époque, d'une certaine région, qui, bien évidemment, apportent des contraintes supplémentaires par rapport au scénario, pour être capable d'avoir des textes, voir si on peut les poser tels quels dans une narration. Mais ça rajoute un deuxième problème, c'est qu'il ne suffit pas que j'ai un spécialiste à côté de moi qui connaisse cette langue pour que je puisse en faire un scénario. Il faudrait que je l'apprenne, cette langue, pour pouvoir m'en servir. Parce qu'à travers la langue, je ne donne pas que de l'information, je donne des émotions, je donne des psychologies. Et si je ne maîtrise pas cette langue, je ne peux pas. Aujourd'hui, je pratique l'anglais, mais je ne maîtrise pas l'anglais. Je serais incapable d'écrire un scénario en anglais. Je connais bien mieux l'anglais que l'ancien français. Que le latin ou je ne sais quoi, et je serais incapable d'écrire un scénario en anglais parce que je n'aurais pas toutes les subtilités du langage.
Mais je trouve que c'est intéressant justement de faire un peu la conjonction des deux, c'est-à-dire qu'il faudrait que les scénaristes se mettent à la rigueur dans l'étude de l'ancienne langue, et puis il y a une coïnée du 12e, 13e siècle qui n'est pas si catastrophique que ça. J'ai un ami avec lequel on s'envoie des petits mots sur Facebook en ancien français, c'est très drôle, on se marre terriblement, les gens qui sont amis se marrent aussi. Donc il y a d'une part ça, mais d'autre part aussi, les libristes seraient très volontaires pour apprendre l'écriture de scénario. Et on sent
que... Je pense que dans ce sens-là, ça fonctionnerait mieux. Ce serait plus simple d'apprendre la technique de scénario à quelqu'un qui maîtrise l'ancien français que l'inverse.
Après, il faudra trouver un éditeur qui accepte de publier ça, et là, ils sont c'est peut-être pas là cet après-midi,
mais je pense que c'est... Ce que je trouvais pas mal, justement, dans la communication de la Corbenari, c'est qu'elle essaie de montrer qu'il y a une poésie spécifique justement, qui est de ce langage hybride qu'il a analysé notamment chez Bourgeon. Et est-ce que c'est pas ça justement la création de l'atmosphère? Est-ce que c'est pas tous ces marqueurs réunis qui font que le lecteur justement, même s'il ne connaît pas l'ancien français, va plonger dans une certaine atmosphère, va accrocher l'atmosphère plutôt que d'essayer de cibler par rapport à des lecteurs jeunes, savants, non savants, etc. Est-ce que c'est pas justement cette verbe-là qui est intéressante? Me semble. Hein. Et puis l'exemple que vous avez donné, c'est du décalage, de l'emploi décalé de l'ancien français comme marqueur de folie. Ça c'est intéressant. C'est très intéressant. Je pense un petit peu aux chansons de rap qui créent un langage original, justement, dans lequel il y a. Voilà.
Donc,
monsieur l'éditeur, on ne voudrait pas dire s'il ne serait pas publié une bande dessinée en ancien français.
Ça m'intéresserait d'avoir le point de vue de l'éditeur.
L'éditeur oui, vient juste d'arriver.
Il n'a pas laissé les membres.
Enfin, c'est toute la complexité du projet. Quoi. Je pense que ça serait intéressant, et c'est ce que je veux faire d'ailleurs en me rapprochant à Demeric sur le projet, qui serait plus une série jeunesse humoristique médiévale, où on essaie de sortir justement des clichés, des stéréotypes, pour retourner à des choses, des connaissances d'une époque que moi je ne connais pas. Donc voilà, on va réfléchir ensemble sur les meilleures manières de faire, mais c'est un problème qui est assez complexe à résoudre, le problème du langage.
Je propose qu'on continue rapidement autour d'un café cette discussion. On fait une pause, mais une pause de
5.
Oui, moins de 10 minutes. On reprend à.